Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qui est là?
969 CJMD.
Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
La zone insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Projet Anubis. Je tiens à m'excuser pour le son qui sera peut-être pas de la meilleure qualité. J'ai réalisé en m'installant que mon micro ne fonctionnait plus. Donc je fonctionne avec le micro d'une de mes webcams. Je vais m'arranger pour essayer de comprendre si le micro qui a lâché ou si ça vient de mon ordinateur. Donc, je vais faire de mon mieux. Je suis content de vous annoncer qu'un peu plus tard dans l'émission, j'ai deux invités que ça fait longtemps que je n'ai pas reçus. Un, c'est JL Cass. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un enquêteur d'Europe. Lui fabrique des appareils, il fabrique ses propres appareils d'enquête. Ghostbox, détecteur de champs électromagnétiques, boîte musicale, détecteur statique, etc. Et lui, ben, n'a pas été là encore cette saison, mais je suis content de le recevoir. Et le deuxième invité, c'est Steve Lapierre. Steve Lapierre est un enquêteur. Dans le fond, il était avec Apo Paranormal à l'époque, mais même encore aujourd'hui, quand on a besoin de lui, il est toujours là pour donner un coup de main. Et lui, il a son équipe dans la région de Lévis. Et je suis très content de l'avoir avec nous dans l'émission. Aujourd'hui, je ne voulais pas parler de fantômes. Je voulais parler de quelque chose. Je pense que vous avez tous déjà vécu ces moments-là. Vous avez, c'était soit chez un ami, une cousine, une tante, une grand-mère, un endroit où vous aimiez aller parce que à cette place-là, il y avait quelque chose que vous n'aviez pas à la maison. Et là, moi, je parle de chez ma tante Huguette. Quand j'entendais les parents dire « OK, on s'en va chez ma tante Huguette », je savais que j'allais voir ma cousine. Et chez ma cousine, il y avait un coffre au sol. Déjà, la première chose que je faisais en rentrant, c'est descendre au sol. Le sol ressemblait un peu à un man cave, vieux chalet, tout en bois. C'était beau, sentait la boulamite. Il y avait ce coffre, et dans ce coffre-là, il y avait un livre spécial. Ça s'appelait le livre de l'inexplicable. Et là, je suis sûr que vous vous souvenez tous de ça, d'avoir déjà été avec soit un ami ou un membre de la famille assis à feuilleter ce livre-là pour les images. Et dans ce livre-là, ce qui m'avait marqué, c'était les histoires de combustion humaine spontanée. Je pense que ça va être intéressant. Et là, vous avez la même image. C'est une des images, les premières images qu'il y a sur l'article de plusieurs pages. Une photo, on voit un divan qui est calciné, dans le fond. Il est encore debout, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui a brûlé dessus. Et tout ce qui reste d'un être humain, c'était les deux jambes avec des souliers qui sont encore à côté sur la chaise, comme si le corps était juste invisible et que les jambes tenaient encore. Ça m'avait marqué beaucoup. Je vais vous sortir quelques... je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce livre-là. Vous en avez probablement vu d'autres. Mais je sais qu'il y a des cas sûrement très probables qui n'ont jamais été répertoriés. Mais au fil du temps, il y en a plus de 300. Et il y a 30 cas qui ont eu des enquêtes très sérieuses avec des scientifiques, plusieurs personnes qui ont essayé de comprendre. Il y a des gens qui ont dit à l'époque que c'était le Dieu qui était venu punir et juste effacer la personne parce qu'elle avait fait des péchés, etc. C'était un petit peu retardé à l'époque. Et il y en a d'autres qui ont dit, bon, mais ça c'est dû par les gens qui fumaient la cigarette et qui étaient alcooliques. Mais avec les recherches, ils se sont rendus compte que la plupart des gens ne fumaient pas la cigarette et étaient aucunement alcooliques. Donc, par la suite, et ça, c'est dans les années 90 que j'avais lu ça, il y a des scientifiques qui avaient dit que ça pourrait être possible que ce soit dû par des fluctuations des champs électromagnétiques. Mais il n'y a jamais eu de preuve, ça n'a jamais été poussé, parce que même encore avant de faire l'émission d'aujourd'hui, j'ai essayé de faire des recherches en rapport à ça et je n'ai pas rien trouvé. C'est comme si ça avait arrêté en 90 et il n'y avait rien eu de nouveau. La seule chose que j'ai vu, c'est que le dernier cas répertorié de quelqu'un qui aurait subi une combustion spontanée, c'était le 12 avril 2020. C'est une madame, eux, ils l'appellent Véronique en parenthèse. Elle, son corps aurait été partiellement brûlé. Ce qu'ils disent, dans le fond, c'est que il restait que les bras, les jambes, une partie de la tête et tout le tronc avait disparu. Et les vêtements qu'elle portait au niveau des jambes et des bras qui n'ont pas brûlé, ben, étaient encore intacts. Et tout le reste avait disparu, même ce qui avait été brûlé, les os, tout ça, il n'y avait plus rien, c'était que de la cendre. Et à chaque fois qu'il y a eu une combustion spontanée, il n'y a rien autour qui a été atteint, sauf le gras du corps qui se retrouve à être sur les murs, ça fait comme des taches noires, et c'est le gras du corps humain qui est là. Ce qu'ils disent, c'est que pour faire disparaître des ossements humains, ça prend 1600 degrés pour qu'un os disparaisse. Ce qui est spectaculaire, c'est que les gens disent que ce feu-là, qui vient de l'intérieur. Et il y a eu des témoins de ça. Il y a quelqu'un qui a survécu à ça. Ça fait comme une espèce de chalumeau. Ça passe au travers de la peau et les gens qui ont été témoins de ça, ça fait l'espèce de chalumeau qui sort de plusieurs pieds du corps. Et c'est pas très long que s'il y a personne qui réagit, la personne qui subit ça n'a aucune chance. Et même dans plusieurs cas, il y a des gens qui ont essayé de venir en aide. Et la seule chose qui est arrivée, c'est quand ils ont réussi à éteindre le feu, tout l'intérieur était brûlé. Donc, la personne était décédée. Donc, il y a des cas qui... Le premier cas qui a été répertorié, c'est en 1731. C'était une comtesse. Elle a été retrouvée complètement calcinée. La seule chose qui restait, c'est une partie de sa tête et quelques doigts au sol qui avaient été intacts. Les mains, tout le corps en entier avait été brûlé. Et encore là, le tapis autour avait une trace noire. Les meubles n'avaient pas été touchés. Et ils ont juste réalisé que les murs étaient noirs. Un autre cas aussi, c'est un soldat qui, lui, dans les années 60, avait été découvert dans une grange à foin. Lui, il avait eu la permission de dormir là par la famille. Et le lendemain, bien, il a été retrouvé presque tout en entier calciné, à part ses jambes en bas des genoux. Et le reste était complètement calciné, il restait même pas d'os. En 1966, John Irving, lui, avait brûlé une jambe en entier. Le milieu de son chest était brûlé, on pouvait voir au travers. Et la marchette sur laquelle il était encore appuyé était pratiquement intacte. Et encore là, du gras qui était sur les murs, espèce de fumée noire là, qui s'installe. Là. 1967, Jack Stacy, un feu dans le ventre intense. Lui, c'en est un qu'il y a eu des témoins. Le feu sortait de 10 cm, comme un chalumeau, comme que je disais tantôt. Jack Angel, en 1964, lui, s'est réveillé, la main brûlée. Il y avait un gros trou dans le dos, et c'est une des seules personnes dans ce qui a été répertorié qui, lui, s'en est sorti, puis il a jamais compris ce qui s'était passé. Donc, lui, il manquait une main, et il y avait un gros trou dans le dos. Ça n'a jamais été expliqué ce qui aurait pu lui arriver. Donc, j'en ai des dizaines comme ça, des histoires de personnes qui ont été brûlées. Un petit dernier, peut-être. C'était deux amis qui étaient quand même avancés dans l'âge, qui habitait dans un logement. Et il y en a une qui va se coucher et l'autre regarde un peu la télévision. Par la suite, elle va se coucher elle aussi. Durant la nuit, il y a une odeur de feu, de brûlé qui la réveille. Et là, elle essaie de voir, elle rouvre la porte de sa coloc. Et là, elle réalise que c'est juste de la fumée qu'il y a sur place. Elle appelle les pompiers. Les pompiers arrivent. La dame, elle a été complètement incinérée dans son lit. Et il y avait deux canaris qui étaient dans la chambre avec elle. Les deux canaris sont morts à cause de la fumée, là. Puis à ce moment-là aussi, les pompiers ont essayé de comprendre parce que même le lit avait même pas tout brûlé. C'était juste noir autour d'elle sur le matelas. Et les murs, encore une fois, étaient remplis de gras d'humains. C'était tout brûlé noir. Donc, s'il y en a, tu sais, ça se peut là, qu'il y en a qui ont des théories ou quoi que ce soit, des explications qui pourraient être rationnelles, j'aimerais ça que vous me partagiez ça par mon courriel appa.paranormal@commercial.com. Ça pourrait peut-être être intéressant d'en parler dans une prochaine émission, parce que je sais que je suis pas le seul que ça l'a marqué, ces histoires-là. Puis en plus de ça, ben, il n'y a aucune explication dite rationnelle ou quoi que ce soit qui vient des scientifiques. Il n'y a personne qui a hâte de l'expliquer. Donc, je sais qu'à un moment donné, comme j'ai dit, il y en a qui ont dit « Ah, c'est peut-être des champs électromagnétiques, mais ça n'a pas été prouvé. » Mais il y a peut-être qu'à un moment donné, on va le savoir. Mais c'est quand même très spécial comme phénomène inexplicable. Dans le même livre, c'est une autre histoire. Et là aussi, vous allez vous en rappeler, là, la famille Pereira. Vous taperez ça sur Internet parce que tout ce que je vais vous décrire, vous allez être capable de trouver les images. La famille Pereira en Espagne en 1971. L'histoire s'appelle Les visages de Belmez. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si je l'ai bien dit là. Eux, dans leur maison, commençaient à voir des visages apparaître sur les planchers et à certains endroits dans la maison, sur les murs. Donc, eux prenaient des photos à chaque fois que ça larvait parce qu'eux le nettoyaient, ça disparaissait ou ça restait là. Et quand ça restait là, le visage semblait juste changer d'émotion. Puis ça, il y a, dans le livre, il y a plusieurs photos, là, si je me trompe pas, il y en a entre 25 et 30 là, que moi j'avais vues là. Plusieurs photos prises de visages différents, autant des visages d'enfants que des visages d'adultes. À un moment donné, même que ces gens-là, la famille, commençait à entendre des pleurs qui venaient du grenier ou dans des pièces de la maison, des pleurs d'enfants, même des lamentations qui semblaient d'être des adultes. Ils ont fait des recherches et ils ont réalisé qu'en 1958, leur famille à eux, ceux qui habitaient là avant, eux aussi avaient vécu sans vivre de visage sur les planchers et les murs, mais avaient entendu eux aussi des pleurs d'enfants et d'adultes. Ils ont commencé à faire des recherches plus poussées et se sont rendus compte que la maison dans laquelle ils habitaient aurait très probablement été construite sur un cimetière qui aurait été profané. Donc, à ce moment-là, ils ont commencé à creuser, c'était là, et il y a deux ou trois squelettes, je me souviens pas, il y en a au moins deux, là, qui auraient été retrouvés sur le terrain, et malheureusement, ben, ils peuvent pas rien faire, c'est très triste, ça me fait penser à Poltergeist, c'est un petit peu la même histoire, là. Mais, puis je sais qu'en 2000, la maison, elle était encore debout. Donc, je sais pas si aujourd'hui elle existe encore, là, mais ça aussi, c'était une histoire qui m'avait marqué. Je me souviens des images. C'était quand même assez impressionnant à voir. Donc, ça, c'est des choses que j'aurais aimé vivre. Des trucs comme ça. Chacun ses histoires et ses découvertes, comme on dit. Une petite dernière. Mais ça se trouvait pas dans le livre. Je voulais en parler parce que, des fois, il y a des charlatans qui essaye d'avoir un petit peu d'attention. Ça aussi, vous allez vous en rappeler, c'est dans les milieux des années 80, les Saintes Vierges pleuraient des larmes de sang. Ça a été plusieurs semaines. Je me souviens, on voyait ça à la télévision. Et quand ça avait commencé, je me rappelle pas dans quel pays, mais là, après ça, il y avait d'autres pays qui avaient suivi. Plusieurs églises disaient vivre ce phénomène inexplicable que eux, dans le fond, appelaient des miracles, la Sainte Vierge qui pleurait des larmes de sang, là, tout le monde se lançait dans les églises, allait faire des dons et allait pleurer avec la Sainte Vierge. Et à un certain moment donné, il y a des gens qui se sont impliqués dans cette histoire-là, ont fait des recherches, et ils ont réalisé ben que les larmes de sang, ça ressemblait fortement, il y a un endroit que c'était de la cire. Et juste à l'arrière, il y avait une espèce de calorifère qui fonctionnait. Et ben, il y avait un système où les larmes qui coulaient, c'était de la cire mélangée avec un liquide. Et à un autre endroit, ben, c'était un système où c'était du sang de veau ou de vache, je sais pas trop quoi, là. Et c'est drôle parce que cette histoire-là, vous pouvez faire les recherches sur Internet, là. Cette histoire-là, ça l'a disparu quand même assez rapidement. Comparé à quand il se passe de quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça reste longtemps. Là. Je me souviens de ça et probablement que vous aussi. Il y a une histoire que j'allais oublier aussi. Ça fait partie du livre de l'inexplicable. Il y a une section où c'était des choses étranges où les gens se posaient des questions. Et moi, j'avais déjà publié une photo sur ma page Facebook. C'est les cimetières qui contiennent des tombes qui ont été enterrées et que par-dessus, il y a des espèces de cages avec des pics qui sont mis. Et là, je me souviens que quand moi j'avais publié ça, il y avait des gens qui m'avaient dit « Ouais, il y a toutes sortes de raisons à ça. » Moi, ce que j'avais lu dans ce livre-là, il y en avait deux. Il y en avait une que à l'époque, quand ça a commencé à être populaire, si on veut cette façon de faire-là, c'est que les gens, certaines personnes croyaient aux vampires. Donc, c'est comme à la chasse aux sorcières. Je me souviens que si j'avais lu dans ce même livre-là aussi, si vous étiez accusé d'être une sorcière, vous passiez en cour, il y avait un monsieur qui était avec une loupe et vous scrutait le corps. Et s'il trouvait un seul grain de beauté de la grosseur qu'il voulait, vous étiez une sorcière et vous étiez brûlé sur le bûcher. Mais c'est à la même époque où les gens vous accusaient d'être un vampire, et vous étiez tué un pieu dans le cœur et on vous arrachait les canines. On vous clouait dans le cercueil, on vous enterrait et on mettait cette cage-là pour être sûr que vous ne sortiez pas pour aller sucer du sang. C'était quand même assez barbare et il y a des histoires encore pires que j'ai lues, là, mais on va garder juste celle-là. Et l'autre raison pour laquelle les gens mettaient des cages en acier par-dessus les tombes, il y a une histoire, c'est une comtesse, elle, son mari est mort et quelques semaines après, il a été enterré. Quelques semaines après, la comtesse voit son mari marcher dans le château et elle a peur, elle essaie de crier, mais elle est tellement terrifiée. Et ben, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'elle le voit un peu partout. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils l'ont déterré. Ils ont réalisé qu'il était encore dans sa tombe, mais pour être sûr qu'il ne revienne pas dans le château, ils l'ont coupé en morceaux. Et puis, ils l'ont remis dans la tombe. Ils ont mis une cage par-dessus. Et ben, la madame, elle a continué à voir ce fantôme-là. C'est là que c'est devenu le plus populaire, je pense. Parce que, comme j'ai dit, à l'époque, on était un petit peu retardé. Et c'était la façon de faire pour être sûr de ne pas avoir de problème. Si ça a réglé des problèmes au niveau des vampires, je sais pas. Mais je sais que les entités, dans la plupart des histoires, continuent à hanter les lieux. Et je sais que il y en a qui avaient été déterrés une troisième fois pour être carrément brûlés. C'était assez terrible, la façon de penser puis la façon de réagir dans le temps. Donc, je vous laisse mijoter là-dessus. On va aller à une courte pause, puis on se retrouve tout de suite après.
La seule station hip-hop au Québec.
Politique correct.
Je me demandais où vous logez maintenant. Êtes-vous à Toronto? Êtes-vous en Floride?
La plupart de l'année à Toronto. Et par de ça, je suis en Angleterre. Je suis toujours membre du Parlement, comme okay. Vous savez. La Chambre des Lords.
Ben oui, vous êtes Lord.
Oui. Okay. Je suis un baron. Un peu de respect, monsieur.
Certainement. Et un grand merci. C'est,
Je vous remercie. C'est un plaisir toujours de faire la connexion encore avec le Québec. Je suis né à Montréal. Je suis dans mon cœur, je suis toujours Québécois.
C'est vrai, ça?
Oui.
C'est très apprécié. À la prochaine.
Okay, bonjour.
Merci beaucoup. Conrad Black.
Politique correct. Votre retour en semaine dès 15h.
Politique correct.
Parle-moi un petit peu de ton parcours, Jack. Tu sais, mettons, quand t'étais plus jeune, tu t'enlignais-tu dans l'humour? T'avais-tu un chemin déjà prédéterminé? Quand est-ce que c'est arrivé, ça, l'humour, dans ta vie?
Non, c'est ça. Moi, ma mère est morte du cancer, puis elle me trouvait drôle. Fait que quand elle est partie, j'ai fait, ben, bon, on va y aller. On va essayer ça, tabarnak.
C'est vrai, ça?
On peut parler de ma mère morte.
T'as-tu parlé de ça avec le fils de Patrick Bourgeois?
C'était mon deuxième sujet.
Politique correct. Votre retour en semaine dès 15h22.
La playlist de l'Alternative Radio. La seule et unique.
Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
De retour de la pause, je vous laisse entre bonnes mains, JL Casse, avec Marcel alias Pépé, des gens dans le domaine du paranormal. Ça va être très intéressant, je vous laisse entre bonnes mains.
Salut Patrick, et merci de nous avoir invités à Projet Anubis, voilà, sur Zone Insolite. Ben voilà, ça fait un petit moment que j'étais pas venu, donc ben voilà, de notre côté, on a plein de nouveautés, bon, pour ceux qui me connaissent pas. Pour que ceux qui ne nous connaissent pas, voilà, moi c'est JL Cast hein, de l'association Enquête et Recherche Paranormale 04, hein, une association sur la recherche paranormale située en France. Maintenant, ben, je suis situé dans le Gard, Voilà. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Marcel, alias Pépé. Voilà, qui maintenant, bah, on a plusieurs projets ensemble, mais il va se présenter et vous expliquer un peu tout ça.
Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Merci Patrick pour cette invitation. Comme Jean-Louis a pu le décrire juste avant, donc je m'appelle Marcel. Dans le monde des enquêteurs, on me surnomme Pépé. Alors, je suis rentré dans le paranormal il y a quelques années déjà, il y a à peu près 20 ans de ça. Donc, enquêteur à la base, toujours enquêteur. Et il y a quelques mois de ça, j'ai décidé de créer la chaîne avec Jean-Louis PPTV Paranormal. Donc une chaîne TV web qui nous donc a permis de diffuser les créations qu'on fait au niveau donc des émissions. On crée des émissions, on a des interviews, on a aussi nos enquêtes qu'on diffuse. Voilà, PPTV Paranormal a été un peu créé un peu pour combler le vide entre des enquêtes, donc qui est des fois un peu longues. Et on avait envie avec Jean-Louis aussi de d'exploiter le paranormal et les connaissances qu'on avait le maximum qu'on pouvait. Donc avec des invités à chaque fois experts, que ça soit dans la communication des fins, que ça soit dans la médiumnité, que ça soit dans les exorcismes. Donc on a essayé avec Jean-Louis d'avoir un panel le plus large possible du monde du paranormal. Voilà, d'inviter des acteurs de ce milieu. Voilà un peu pour planter le décor. Voilà, donc on essaye avec Jean-Louis de trouver un peu des idées pour nos émissions. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire une ensemble avec vous. Voilà, pour présenter un peu votre radio, pour présenter un peu ce que vous faites. Voilà quoi, donc paranormal, PPTV paranormal, donc voilà, donc on diffuse sur StreamYard un peu tout ce qu'on sait faire.
Voilà, c'est une chaîne YouTube. Donc en fait, sur cette chaîne, tout simplement, on a en attendant trois styles d'émissions. Donc on a nos enquêtes documentaires, c'est projet Contact with the Beyond. Voilà. Après, nous avons donc l'émission en direct, voilà, c'est une émission mensuelle en direct via YouTube, donc avec nos spécialistes. Hein, chaque émission est différente, donc qui s'appelle Le Monde du Paranormal. Et ensuite, on a une émission qui s'appelle Face à la caméra, voilà, où donc on interview les acteurs du paranormal. Et on essaye aussi maintenant, voilà, de faire le tour du monde des enquêteurs de terrain. Donc voilà, là on a attaqué la dernière fois, donc qui est disponible sur notre chaîne, le groupe Paranormal Recherche Investigator Yuka. Voilà, c'est eux qui ont commencé le tour du monde. C'est une association anglaise. Donc là bientôt on aura donc un Indien, on aura peut-être des Belges, on aura des Américains. Voilà, on va essayer de faire le tour du monde. Le plus compliqué, voilà, c'est bien sûr, c'est par rapport à la langue. Donc chaque émission est traduite en français et en anglais. Donc voilà. Donc vous avez accès, vous pouvez la regarder, il n'y a aucun problème là-dessus. Et sinon, dans Face à la caméra, là on vient de finir le montage qui sera disponible le jour de l'émission. Avec un prêtre exorciste, voilà.
Donc, comme vous pouvez voir, on essaye d'explorer au maximum toutes les branches qui tournent autour du paranormal. Donc, on essaye aussi, comme l'a dit Jean-Louis, de rencontrer et d'un peu connaître comment se passe le paranormal à l'étranger, dans d'autres pays. On sait très bien que nous, qui sommes basés en France, les Français, on a une mentalité sur le paranormal qui est des fois un peu tabou par rapport à certains pays où il est complètement libéré. Voilà, donc on essaye avec les contraintes un peu aussi des sites d'avoir pour les enquêtes, qui n'est pas tout le temps facile à trouver. Donc voilà, donc des enquêteurs en paranormal, voilà. Je sais, on a eu quelques fois des personnes un peu du Canada. C'est bien ça, on avait
oui,
eu...
Oui, ben, Patrick, la dernière fois, devait participer à notre émission, mais il a eu un problème, il était encore au boulot, et voilà, il a dû faire des heures sup.
C'est pas si simple de trouver un créneau à chaque fois pour se libérer.
Non, c'est pour ça. Donc j'espère bientôt, Patrick, t'avoir en live, et bien sûr, participer à notre émission, hein, face à la caméra, voilà, tu feras le représentant... Du côté Canada, bon, bien sûr, il y aura aussi notre ami Dominique qui fera l'interview, j'ai vu avec lui. Donc voilà, vous le connaissez bien sur l'émission.
Voilà, donc le processus, un peu, pour vous expliquer un peu, nous en France, alors ça doit être un peu pareil chez vous, mais donc comment on procède donc pour une enquête paranormale. Donc on travaille beaucoup avec des appareils. Des appareils, bon, Jean-Louis en dirait un peu plus, mais des appareils que Jean-Louis fabrique lui-même, personnalisés, avec vraiment, en éliminant le plus possible tout ce qui serait nuisible pour des résultats. Donc on travaille avec des caméras infrarouges, on travaille avec ben, des enregistreurs, on a testé quelquefois la caméra SLS, qui permet de visionner si ça bouge. Voilà, une enquête un peu, et on essaye aussi, on va essayer d'intégrer de plus en plus un peu des outils traditionnels tels que la table de Ouija, le pendule, que Jean-Louis a déjà testé en enquête, voilà, essayer de rentrer un peu plus avec, d'utiliser un peu plus le corps en parallèle des appareils. Voilà, donc... On travaille aussi beaucoup aussi avec des personnes qui maîtrisent un peu ces sujets-là. Le contact défunt qu'on a créé la dernière fois de notre émission, ça permettait de découvrir donc ces fameuses transcommunications donc utilisées avec certains outils, hein, répète Ouija, pendule, écriture automatique et bien d'autres. Voilà, on travaille aussi beaucoup avec un peu la paix des âmes des personnes qui nous suivent. On a fait la dernière fois ça aussi pour qu'elles puissent savoir si c'était possible un peu des nouvelles de leurs proches défunts. Voilà, essayer de mélanger un peu le paranormal et des légendes, c'est quelque chose aussi qui nous tient beaucoup à cœur. Voilà.
Moi, je veux juste préciser que voilà, chaque fois qu'on a des demandes, tout ça, et qu'on doit aller voir des gens, nos services sont gratuits. Voilà, on ne fait rien payer.
Oui.
Voilà, à savoir, voilà, parce que c'est vrai que dans ce monde-là, il y en a beaucoup qui pourraient en profiter et qui en profitent. Hein. Voilà, on le voit très souvent. Donc voilà, nous on s'autofinance notre matériel, voilà, parce que bon, moi perso, j'en crée beaucoup, parce que vu le prix du matériel, c'est pour ça que j'ai commencé à créer mon propre matériel. Après voilà, j'ai une passion pour l'électronique, même si je suis pas électronicien, hein, j'étais informaticien, bon, je suis toujours passionné d'informatique, hein. Donc voilà, mais après, je travaille plus dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que vu le prix du matériel, c'est pour ça que je me suis mis à le créer moi-même et maintenant j'innove. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de matériel unique, hein, voilà, qu'il n'y a que moi qui possède, parce que voilà, c'est des voilà, on essaye de les tester sur le terrain. Après, ça ne veut pas dire que matériel va fonctionner. Après, Marcel pourra vous le dire, hein, on va dire, souvent sur un lieu, ça va être certains matériels qui vont fonctionner et pas d'autres, et vice-versa. Ça va dépendre des lieux, des moments, de l'énergie du lieu. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'un matériel va être bon ou pas bon, ça va dépendre tout simplement du lieu et de comment on va l'utiliser. Donc tout à l'heure, Marcel, vous parlez de la caméra SLS, hein, donc la Kinect. Hein. Voilà, au départ, la Kinect, c'est fait partie de la Xbox 360, ou même là, après les dernières, la Xbox One. Maintenant, si vous suivez un petit peu bah, l'émission américaine, Ghost Adventure, vous devez voir la Kinect Azure. Voilà, ils se servent maintenant de celle-là.
Mais tout à pareil, il faut faire attention. Voilà. Il faut vraiment faire attention à comment on s'en sert. C'est pas parce qu'on va avoir une forme que c'est un esprit. Hein. Non, 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 non. Le problème, tout appareil peut avoir un bug. Il faut toujours essayer de confirmer derrière ce qu'on peut voir, ce qui apparaît. Donc nous, par défaut, voilà, si on voit quelque chose, on va essayer d'interagir avec ce que l'on voit. Par exemple, ben, tout simplement de demander à la forme de venir nous toucher ou de lever le bras ou une jambe, par exemple. Voilà. Si vous voyez que ça répond et qu'il y a une possible interaction, là, vous vous dites, bon, peut-être que... Après, c'est toujours pareil. Hein, il y a toujours une possibilité. Il faut toujours se laisser une possibilité de... Ben, c'est un bug. Voilà. Donc, on ne certifiera jamais à 100% que cette identité... À part si, voilà, si par exemple, ben, on aurait une forme qui apparaît sur la SLS, et par exemple, en même temps, on aurait une voix sur la Spirit Box, hein, et qui nous dirait, oui, c'est moi que tu vois. Là, on pourrait pas dire, c'est pas ça. Mais voilà, le problème, il faut toujours être modéré, voilà, et pas toujours, ouais, je vois ça, c'est ça. Non, 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 non.
Surtout avec maintenant le problème des réseaux sociaux. Qui font tourner des fois en bourrique un peu le monde du paranormal, où malheureusement beaucoup de gens ont une vision du paranormal un peu comme des chasseurs de courants d'air. Donc c'est avec maintenant, il faut dire tout ce qui est les fakes sur Internet, toutes les fausses informations qui décrédibilisent le paranormal. Je sais qu'en France, bon, ça doit être un peu partout. Sur notre planète, où les réseaux sociaux ne font pas que du bien. Et donc, c'est pour ça qu'on est blindé un peu d'appareils pour avoir le moins de voilà. Si on doit avoir un résultat, on reste très terre à terre. On va d'abord analyser tout ce qui peut créer ce résultat. Et après, donc, ne pas tirer des plans sur la comète, comme on dit. Donc, voilà, essayer de trouver d'abord si ça peut être un résultat tout à fait naturel. Donc voilà, donc essayez d'avancer petit à petit, car voilà, de pas tout mettre n'importe quoi, c'est un peu le créneau aussi de notre groupe, de nos mentalités. Quand on voit sur Internet qu'on voit tout et n'importe quoi, où tout le monde voit des fantômes, et tout le monde... voilà, donc on essaye de rester concentré sur le fait réel, sur les faits réels, et essayer d'éliminer tout ce qui pourrait être voilà, ce qui est un peu imaginaire.
Oui, oui, tout ce qui est parasitaire.
Voilà, parasitaire. Ouais.
Ah, c'est ça. Le souci, oui, le problème maintenant, avec, comme tu dis, avec les réseaux sociaux, c'est la chasse à la vue. Voilà, c'est je veux faire de la vue, de la vue, de la vue, donc automatiquement, ben, je dis n'importe quoi, on s'en fout. L'important, c'est que ben, ça fasse de la vue. Après, tu vas me dire, Marcel, on remarque maintenant beaucoup que depuis certains temps, il y a certaines personnes qu'on suivait un petit peu au départ qui commencent un peu à changer. Dans le style, ben, au début, voilà, ça fait un peu comme nous on faisait, tu vois, nous, voilà, quand on fait une enquête, moi j'ai toujours fait comme ça, et ben l'enquête, c'est le nom du lieu. Hein, bon, le lieu, on va le modifier pour pas donner le nom exact, hein, parce que bon, c'est souvent de l'urbex, donc on ne donne pas le lieu, parce que bon, par défaut, c'est dangereux l'urbex, et c'est normalement dans le sens illégal, parce que on a accès à une propriété privée sans avoir les autorisations. L'urbex, c'est ça, hein, par défaut. Parce que si on a les autorisations, c'est plus de l'urbex, hein, c'est de la visite. Hein. Donc voilà, le problème, après, dans le temps, maintenant, ils commencent à mettre des noms putaclic. Ouais. Ça change, c'est plus ben, le château, machin. C'est le fantôme qui me court après, ou machin, j'ai eu peur, aïe.
Oui, j'ai rencontré un démon et on me tue, en voilà. Donc les putaclic.
C'est ça, c'est la course à la vue et aux monétisations, c'est plus une passion, ça devient un business.
On le répétera jamais assez pour tous les jeunes qui nous écoutent actuellement, que ça soit l'urbex, le paranormal, ce n'est pas un jeu. utiliser la Ouija avec les copains, se faire des délires spiritisme sans être accompagné, je vous le déconseille énormément, car on voit de plus en plus malheureusement des cas psychologiques chez les jeunes et des fois les moins jeunes, où le paranormal peut aussi affecter beaucoup la vie des personnes. Quand on perd quand on perd quelqu'un de proche, des fois on serait prêt à n'importe quoi pour essayer de rentrer en contact avec cette personne. Et c'est là où le danger commence, que ce soit des médiums véreux, ou que ce soit l'utilisation de Ouija abusive et des fois mal faite. Donc on vous le répète, le paranormal, c'est pas un jeu. Le paranormal, c'est quelque chose qui s'apprend. On a étudié la parapsychologie avant pour pouvoir savoir où on met les pieds. Donc voilà, le paranormal, c'est une étude. Voilà, c'est des mesures, c'est des histoires, c'est... Voilà. Donc faites attention si vous devez faire des urbex sans sécurité dans des lieux des fois délabrés. On a souvent vu malheureusement des victimes bien trop malheureusement. Ouais. Pour nous suivre, on va quand même vous donner quelques infos. Pour nous suivre, donc si vous désirez un peu voir ce qu'on fait donc ici en France, dans le sud de la France, eh ben vous allez sur YouTube, vous vous abonnez à PPTV Paranormal. Voilà, donc une chaîne, vous verrez, où on a mis un peu tout ce qu'on a fait pendant. On est jeune, on est une chaîne jeune. Alors, dans le paranormal, on est vieux, hein, vous voyez juste le surnom Pépé. Bon. Mais vous voyez, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait. Il y a aussi URP04, donc n'hésitez pas à aller sur sa page de JL. Donc, qui fait aussi de superbes trucs. Bon, de toute façon, vous connaissez, vous allez vite voir que ce qu'on fait, voilà. Donc, n'hésitez pas. PPTV Paranormal sur YouTube, et vous voyez ce qu'on fait. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. On vous fera passer dans une émission en direct. Alors, on essaiera avec le décalage d'essayer de s'arranger ou de faire une interview. Alors, si vous aimez le paranormal, que vous êtes au Canada, au Québec ou de partout dans le monde, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse faire ensemble des interviews, de montrer un peu ce que vous faites, et ça nous permettra de montrer ce qu'on fait.
Moi, alors je voulais revenir, Pépé, sur comment analyser. Parce que c'est vrai que c'est bien beau de faire des enquêtes, mais après, derrière, il y a l'analyse. Et souvent, l'analyse, c'est le plus compliqué. Voilà. Donc là, il y a quelque temps, là, on nous a contactés pour des analyses de photos. Mais le problème, voilà, moi, je vais expliquer un petit peu comment procéder. C'est ma façon de voir, hein, comment procéder pour une analyse de photo. Déjà, avoir une photo comme ça, sans savoir de quoi on parle, ça sert à rien. Donc déjà, nous expliquer le contexte de l'image. Voilà, ça veut dire qu'est-ce qu'on voit à l'image. Moi, je veux pas savoir qu'est-ce qu'on voit de paranormal à l'image. Et surtout, de me dire, par exemple, ça c'est le salon, on l'a pris à telle heure, à tel moment, et on l'a pris comme ça. Et pourquoi on l'a pris? Voilà, déjà, ça c'est le contexte de l'image. C'est savoir... pourquoi j'ai cette image-là? Voilà. Déjà, après, voilà, ça c'est bien, mais est-ce qu'il y a une photo de concordance, qu'on ait pris plusieurs photos? Voilà. Et savoir vérifier, voilà, si sur une photo on a quelque chose ou pas, et avoir plusieurs photos de la même endroit et du même lieu. Voilà, faire trois, par exemple, quand vous faites une photo, vous en faire trois. Voilà. Au moins, comme ça, on a une différence sur les photos. Voir si à un moment donné, si vous avez toujours la même chose. Après, voilà. Parce que souvent, souvent, ça peut être de la pareidolie. Par exemple, l'image la plus connue en pareidolie, c'était l'image de Mars où on voyait une photo d'un visage. Voilà. On pensait tous à l'époque, c'était dans les années 70, on voyait tous un visage sur Mars, et en fait, quand ils ont envoyé les sondes, machin, tout ça, on a bien vu qu'en fait, c'était juste un rocher, et c'était le moment, l'angle où ils avaient pris la photo, c'était par rapport à l'ombre et tout, et on aurait l'impression que c'était un visage. Donc, c'est pareil, et c'est souvent ça. Donc, voilà. Et par exemple, si on voit une lumière, ou quoi que ce soit, voilà, par exemple, de noir, une image de nuit, souvent, elle a été prise avec le flash. ben, si vous bougez au moment que vous faites la photo, ben, vous voyez une trace. Donc voilà, c'est des fois c'est vite analysé. Mais le problème c'est que souvent ben, les gens ils s'attendent pas à ça comme réponse. Ils attendent ben oui ça c'est ça, ça c'est ça. Non ben si vous voulez nous voir, ben attendez à voir notre réponse. Après c'est pas obligé que ce soit la bonne, hein. C'est notre réponse. Voilà.
En fait on peut pas donner un avis sur une simple photo ou sur un simple son ou si c'est très compliqué. Un résultat, ça se fait, comme il dit Jean-Louis, avec tout un contexte autour. si on me montre une photo où il y a tout qui vole dans la maison, je ne sais pas si la fenêtre était ouverte, je ne sais pas s'il y a un courant d'air à ce moment-là. Donc voilà, c'est très compliqué de donner donc un avis sur des fois des résultats. Je voulais juste aussi vous dire que pour les gens qui auraient la chance d'être à Paris d'ici fin avril, c'est ça, Jean-Louis?
Ouais, le dernier week-end d'avril.
Alors, dernier week-end d'avril, nous avons eu la chance donc d'être invités par les organisateurs du Fan Festival.
Ouais, le Paris Fan Festival.
Voilà, le Paris Fan Festival, nous aurons un stand là-bas. Donc voilà, donc si vous avez la chance d'être à Paris à ce moment-là et que vous êtes dans la zone, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, on serait content de vous rencontrer.
On m'a déjà posé la question, non, ce n'est pas une foire sur le paranormal, hein, ce n'est pas un salon du paranormal, c'est tout ce qui est autour.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De la pop culture. Là, ça fait 3 ans c'est la troisième année qu'ils vont le faire et ils voulaient faire depuis le temps rajouter tout ce qui est ésotérisme et chasseurs de fantômes comme ils disent. Voilà. Bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, voilà. C'est pas grave. Et donc voilà, on a été invités avec Gus et X. Sur ça. Et ça qui est bien, voilà, c'est qu'on va pas être entouré de gens passionnés du paranormal. Donc on pourra parler autrement et il y aura beaucoup de sceptiques. Et ça qui est bien, ça qui est bien. Comme ça, au moins, on pourra débattre par rapport à ça. Voilà, c'est une autre approche. C'est une autre approche. C'est pas on va tomber sur des fanas du paranormal et tout est paranormal. Là, non. C'est au moins, il y aura un débat derrière. Ça qui est pas mal. Ça va être sympa. Moi, je pense que ça va être sympa.
Oui, ça va être sympa et ça pourra aussi un peu de leur projet qui est pas mal, hein, d'essayer d'intégrer l'ésotérisme, tout ce qui touche un peu au paranormal. On a les chances d'être les premiers, donc bon, on va en profiter un maximum. Hein. Écoutez, ça fait toujours plaisir d'être invité dans les salons, à la rencontre des gens. Donc voilà, dernier week-end d'avril, porte de Versailles. C'est ça, Porte de Versailles.
C'est ça, Porte de Versailles, le 27-28, je crois. Hop, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, le 27 et le 28 avril. Sur
Paris. Ben voilà, ben, écoutez, on vous remercie énormément donc de cette invitation. Voilà, donc on vous rappelle PPTV Paranormal, ERP 04. Donc une association d'amis.
C'est ça.
Et voilà, une rencontre exceptionnelle avec Jean-Louis depuis maintenant quelques dizaines d'années. Donc voilà, donc on était là pour vous présenter nos projets. On vous remercie énormément de votre écoute. Merci encore Patrick. on vous souhaite, quand je vous souhaite une agréable journée. Je donnerai à Jean-Louis le mot de la fin. Voilà, bonne journée à tous et merci encore.
Oui, ben merci Patrick, comme Marcel dit, de cette invitation. Hein. Et j'espère te voir bientôt en live dans nos émissions. Hein. Et tu sais, voilà, avec Dominique, on a toujours notre projet à finaliser. Voilà, qu'on avait attaqué. Et donc tu sais de quoi je parle. Donc il faut qu'on trouve une date. Bon Patrick, je te remercie. Allez, au revoir à tout le monde.
Vous écoutez CJMD.ca.
Talk, rock, hip hop.
CJMD 96.9. L'alternative.
Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
De retour de la pause. Donc, je vous l'avais dit, des personnes, toujours des gens très intéressants à l'émission. La prochaine, je vais essayer d'avoir Dominique Desormeaux. J'aimerais aussi essayer d'avoir Sébastien Boisvert, une équipe que je suis depuis longtemps. Eux sont à Limousin, en Europe. Ça fait quand même très longtemps même que je les suis. Donc, je vais avoir une discussion avec Seb. Et je vais vous revenir là-dessus. Je vous ai parlé de Steve Lapierre. Donc, Rip Estri. Lui est avec Appoint Paranormal quand on en a besoin. Il a été quelques années aussi avec nous à faire quelques enquêtes. Je me souviens d'une qu'on a fait ensemble. C'était celle du Vieux Palais de Justice de l'Assomption. Et je pense qu'il est venu deux reprises au Vieux Palais. Ça avait été une expérience que je me souviens qu'il avait dit qu'il n'oublierait jamais. On avait vécu quand même beaucoup de choses là-bas. Surtout au niveau du grenier. C'est très rare, moi, que j'allais enquêter au grenier, parce que quand j'avais essayé à deux reprises, j'avais absolument rien capté. Sauf que la fois où je suis allé avec lui, on a été un peu plus patient et on avait été témoin d'objets qui semblaient bouger parce que c'était des bruits de frottement au niveau du sol et personne, tout le monde connaissait la procédure, donc il n'y a personne qui devait bouger ou quoi que ce soit. Si quelqu'un faisait un bruit, il fallait qu'il le dise là. Donc il y a des objets qui semblaient bouger et aussi des PBE. On essayait de rentrer avec des soldats à l'époque qui étaient cachés pour éviter d'aller à la guerre. Il est venu aussi avec nous au resto-bar de Brossard. Et ça, la vidéo se trouve sur notre chaîne YouTube. Là. Ça aussi, c'était une belle expérience qu'on avait vécue ensemble. Et c'est pas mal à ce moment-là où Alex, qui est toujours avec nous, s'était joint à l'équipe. Et on avait tous vécu quand même des belles enquêtes là-bas. Là. Le Vieux Palais, ça a l'air qu'on peut y retourner. Donc, il y a peut-être des chances que j'essaie d'entrer en contact avec le propriétaire pour savoir comment ça fonctionne avec le nouveau proprio, là, parce que là, c'est plus les mêmes qu'avant. C'est la ville, je pense, à cette heure-là. Donc, je vous laisse entre bonnes mains, je vous laisse entre les mains de Steve Lapierre. Bonne écoute.
Hey, salut Pat. Je suis bien content d'être là. Pour commencer, si on peut le faire comme ça, je vais vous présenter Rip Estri, parce que c'est un peu grâce à toi que ça a vu le jour, ça, ce groupe d'enquêteurs-là. Et puis, moi, j'ai fondé ça un peu après avoir été dans mes débuts avec Appa Paranormal, si tu veux, en 2016. Rip Estri, ça l'a vu le jour peut-être un an et demi, deux ans après, au maximum. Et puis, donc, c'est un peu, justement, un truc qui m'a donné la piqûre pour le paranormal, puis tout ce que ça l'emporte. Et puis, j'ai voulu continuer ça de mon côté d'une raison, parce que, bon, je restais pas mal plus loin que le reste des enquêteurs de la POL. J'étais de Sherbrooke, même un petit peu plus loin, là, dans la région de Cookshire, tandis que à peu près normal, est basé à Laval. Et puis, tranquillement, t'es plus devenu un mentor, si tu veux. Puis, je me suis basé vraiment sur ce que j'avais appris avec APA Paranormal pour opérer du côté de Répestrie, puis tranquillement monter une équipe. Et puis, de là, ben, le bagage s'est transposé. T'sais. J'ai des principes fondamentaux là, de chez Répestrie qui sont le respect, la discrétion, le rationalisme et la gratuité. T'sais. Pour les expliquer, là, au niveau du respect, c'est que le gros des gens qui ont peur de faire affaire, avec des enquêteurs du paranormal. Et puis, c'est très simple, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui font preuve de jugement ou qui vont imposer, justement, une façon de voir les choses ou de croire en quelque chose. Et puis ça, nous autres, c'est exclu. On veut pas que ça se passe comme ça avec les gens avec qui on travaille, que ce soit au public ou au privé, on s'entend. Parce qu'on fait vraiment les deux. Le respect aussi, ça va au niveau du jugement, c'est l'ethnie, l'orientation sexuelle, ça va aussi avec la condition médicale ou psychologique du client. Et puis on traite tout ça dans le respect le plus absolu. T'sais, parce que quand on rentre dans la vie des gens là, chez qui on va enquêter, on rentre pratiquement dans leur bobette, parce que bon, faut à peu près tout savoir sur ce qui se passe là pour être capable d'avoir une bonne analyse de ce qui se passe là, puis de savoir pourquoi ils sont pas capables de s'expliquer les phénomènes ou les événements qui se produisent chez eux. En même temps aussi, il faut faire preuve d'une belle grande discrétion, parce que oui, on fait des enquêtes, oui, on publie sur YouTube, oui, on aime montrer notre contenu puis nos réussites en fait, mais on le fait toujours de façon à ce que les gens puissent garder l'anonymat quand c'est requis. Jamais on va démontrer exactement l'extérieur de la maison, l'adresse, nommer les personnes qui sont là. Ils sont sur des vidéos, c'est qu'ils nous ont vraiment mis un release là, sur les images là, en fait qu'on va publier. Ou encore, c'est qu'ils nous disent « Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je peux être là, mais j'aimerais mieux que tu brouilles mon visage ou que tu fasses quelque chose avec ça. » Mais oui, ça se fait. Il y a toujours moyen là de garder là une belle discrétion là autour des événements puis du travail d'enquête. Le rationalisme là est super important dans l'enquête paranormale là, pour la simple et bonne raison que si on peut pas regarder d'un œil ou de la tête froide là, les événements qui se produisent là, c'est trop facile de sauter à des conclusions paranormales, même quand c'est pas requis de le faire. T'en as parlé des centaines de fois, Pat. Et puis, moi, je suis 100% d'accord avec ça. C'est que le rationalisme va nous permettre d'avoir une analyse beaucoup plus claire et plus objective de ce qui va se produire autour. Le rationalisme, là, contrairement à l'ésotérisme, il va apporter là la possibilité d'avoir des événements ou des captures d'événements, si on veut, qui sont documentables, qui sont gérables, qui sont analysables par n'importe qui va pouvoir mettre la main dessus. Contrairement à l'avis, au ressenti ou au dire d'un médium, aussi bon qu'il puisse être, là, parce que je continue de dire que ça existe, j'y crois. La difficulté à ça, c'est qu'on ne sait jamais si on fait vraiment affaire à un médium ou non. Et puis, garder des gens qui sont d'excellents mentalistes, c'est parfait. Il y a des gens qui sont d'excellents médiums, c'est parfait. Mais c'est comme dans n'importe quel secteur de l'ésotérisme, il y a de tout dans tout. Il y a des gens plus honnêtes, il y en a qui sont moins. Tandis qu'avec le paranormal, on est vraiment capable de documenter ce qu'on fait et puis de laisser les gens avoir leur propre analyse ou leur propre jugement sur ce qu'ils voient. Et puis c'est vraiment parfait comme ça. Et puis on parle de gratuité, ben effectivement, Répestrie opère en toute gratuité pour la simple et bonne raison que le but est d'aider des gens, pas de faire l'argent sur leur dos. On n'est pas un organisme à but lucratif, c'est tout le contraire. Souvent on paye pour aller enquêter. On paye de notre temps, on paye du matériel, on paye de l'essence, on paye de tout pour aller enquêter. justement par passion de ce domaine-là, parce qu'on veut aussi élargir nos connaissances dans ce domaine-là. Puis il n'y a pas de livre assez grand pour être capable de contenir toute l'information que ça peut nous offrir encore aujourd'hui. Puis on est prêt à s'investir autant avec du temps et de l'argent pour aller enquêter. Maintenant, quand on parle de gratuité, on se dit bien le service est gratuit, l'analyse est gratuite, l'enquête est gratuite, mais on aime quand même effectivement que les gens nous donnent un bon coup de main quand on va les aider à domicile là, par rapport aux frais de déplacement, s'il y a lieu d'hébergement ou de nourriture, puis au niveau des batteries et ces trucs-là. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Là. Ça va jouer dans la balance des fois dans le choix d'aller faire une enquête ou non, malheureusement, parce que bon, on a tout un travail puis on fait énormément d'heures. Mais tu sais, si ça coûte 400$ aller faire une enquête au privé, des fois c'est à considérer, puis on veut pas nécessairement essuyer les frais au complet. Au niveau de la méthodologie que Répestri adopte pour dans le cadre de ses enquêtes, ben c'est, on le dit un petit peu, c'est vraiment un esprit rationnel et analytique qui va entourer nos décisions, puis qui va nous aider à porter des jugements plus clairs, plus éclairés, puis plus rationnels sur ce qui va se produire là, comme événement. Et puis c'est en éliminant toutes les causes rationnelles possibles qu'on va peu à peu s'en venir vers des hypothèses paranormales quand un phénomène nous surprend, là, t'sais, quand on peut capter quelque chose. Donc à ce moment-là, ben, l'esprit rationnel et analytique a toujours la première place, peu importe ce qui va se produire devant nous, et peu importe que ça nous paraisse très paranormal ou à peu près pas paranormal, on va adopter le même comportement. C'est vraiment cartésien, c'est de la façon dont il faut qu'on fonctionne pour arriver là, à des bons résultats d'enquête. L'inspection des lieux est primordiale, c'est de savoir exactement dans quoi on s'en va, chez qui on s'en va, dans quelles conditions on va là, comment ça fonctionne chez ces gens-là, est-ce qu'il y en a qui prennent des médicaments, est-ce qu'il y en a qui ont des troubles psychiatriques, est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes de santé majeurs qui sortent d'une opération, est-ce qu'il y en a qui sont plus sensibles aux champs électromagnétiques, est-ce qu'il y en a qui ont... Il y a des millions et des millions d'impondérables possibles qui peuvent subvenir dans une enquête, il faut en tenir compte à 100%. Donc, l'inspection des lieux, l'interrogation des témoins, c'est vraiment un travail de moine, mais il faut le faire. Et puis après ça, une fois qu'on enquête là, on compile les événements qui se produisent, et c'est des événements qui sont concrets et tangibles, comme je l'ai expliqué tantôt. C'est très important qu'on puisse adopter un mode où on puisse présenter visuellement, de façon tangible à tout le monde, ce qu'on a vécu. Et c'est comme ça que les gens peuvent avoir un regard là, différent sur le paranormal, puis être certains de ce qui se passe aussi. Mais après, on leur laisse toujours leur choix là, quant à l'interprétation qu'ils vont faire face à ce qu'on leur présente. Donc là, nous, on n'est pas pour pousser dans la gorge, c'est paranormal, ça ne l'est pas. On va donner notre idée claire, on va la donner de façon très transparente. Après, on respecte, toujours le respect, on va respecter beaucoup la façon dont ils voient ça. Puis après ça, on va suggérer les mesures aussi face à ça, ce qui se produit chez eux. Et puis, donc, on parle de ça, de croyances, hein, on parle de toutes ces choses-là. Ben, dans l'idéologie de Répestri, tu sais, on doit composer avec toutes sortes de choses. Il y a des fausses croyances. Il y a le folklore aussi, hein, lié au paranormal, la démonologie, la théologie, le Ouija, les médiums. Un tel aussi, la matante du cousin, de la fesse gauche du beau-frère a des dons. Lui, il m'a dit ça. J'ai mis une pierre sur le bord de la porte. J'ai fait brûler de l'encens. Il y a beaucoup de choses qui entourent ça. Et on dirait qu'à chacune de ces choses-là, les gens vont y croire d'une façon différente. Mais tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça fait un folklore autour de ça. Il y a un folklore autour du paranormal au Québec. Et les gens, je pense qu'ils ont malheureusement appris à voir ça dark. Ils ont appris à voir ça avec une belle sauce Hollywood là, tu sais, là, qui fait que le paranormal, quand il se produit quelque chose, faut avoir peur, c'est dark, l'inconnu fait peur, c'est un démon, c'est ci, c'est ça. Moi, j'exclus tout ça. absolument tout ça de mon registre. Moi, c'est la théologie, démonologie, Ouija, c'est tous des trucs que moi, je veux pas... pas que je veux pas en entendre parler, mais je veux exclure ça de mon processus d'enquête puis du service que je donne. Parce que, première des choses, pour moi, si une entité est méchante, c'est pas nécessairement un démon. Il y a des gens dans la vie qu'on croise dans la rue qui sont méchants, mais quand ils sont morts, ils sont encore méchants. Il y a des gens qui sont d'une bonté extraordinaire dans la vie. Ben, eux, dans la vie, ils vont rester néanmoins que ça... après leur mort, par contre, là, pardon, ça va être des gens qui vont encore être bons, tu sais, puis qui vont être bienveillants. Mais il y en a de ça de l'autre côté aussi. Tu sais. Fait que là, au niveau des croyances, il faut le classer, c'est toutes des choses qui comptent, là, puis qu'il faut tenir compte. Puis toujours, hein, les gens font encore leur propre opinion de ça. Mais selon moi, tu sais, il y a des trucs comme ça qui sont appelés à être étudié davantage, je pense, par n'importe qui, pas juste par les enquêteurs, pour avoir une bonne idée de ce qu'est le paranormal, parce que je pense qu'il faut que ça évolue. On est dans un mode où, à un moment donné, on se disait que le paranormal est malade au Québec, puis c'était justement à cause des gens qui propulsaient un peu ce mode de pensée-là, tu sais, du maléfique à tour de bras, puis j'ai vu un démon, puis à un moment donné, on s'en rappelle, avec Appa Paranormal, j'avais fait un appel pré-enquête, puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit que son frère avait vu un démon avec des cornes, une cape et une fourche. T'sais, écoute, à un moment donné, il y a des limites à croire à tout ça. Là. Mais encore là, on a fait preuve de respect, on n'a pas jugé la personne, on a tout simplement décidé de pas aller de l'avant avec l'enquête pour X raisons. Au niveau des réalisations avec Répestri, il y en a une qui me frappe plus particulièrement. On parle d'une enquête que j'ai faite dans une région rurale dans le coin de Saint-Malo, en s'en allant vers les douanes américaines, dans un rang de campagne en terre battue. Puis on était loin, il y avait 2, 3, 4 kilomètres de chaque côté où il n'y avait pas de maison. Puis c'était une fermette, ça. Et dans cette fermette-là, il y avait des rénovations au niveau de la maison. C'était une famille qui était, on va dire, dysfonctionnelle. Ben pas dysfonctionnelle, je veux pas le dire comme ça, mais c'était rempli de choses qui se produisaient au sein de cette famille-là qui étaient complètement en dehors des standards tout le temps. Et puis ça, c'est des choses qui peuvent provoquer probablement certaines entités. T'sais, c'est comme... il y avait un garçon qui était autiste. Ça encore là aussi, je pense qu'il y a des corrélations qui ont plus de possibilités de vivre des phénomènes paranormaux. Il y avait des tentatives de suicide, il y a eu toutes sortes de choses dans cette maison-là qui a fait qu'à un moment donné, ben les choses ont dérapé du côté paranormal. Rénovation, l'historique de la maison qui était super lourd depuis une centaine d'années. Et puis aujourd'hui, cette maison-là, ben, elle a passé au feu. Pour une énième fois, elle a passé au feu. Ce coup-là, ils n'ont pas pu la récupérer. Mais à chaque fois qu'elle a passé au feu, cette maison-là, ça a toujours été complètement inexplicable. Il y a eu la grange en arrière qui a passé au feu en plein hiver, pas d'électricité, pendant une journée nuageuse. Il n'y avait rien qui apparemment pouvait faire en sorte que le feu prenne dans cette grange-là. Il y a eu des dizaines d'animaux morts. C'est arrivé à une couple de reprises des événements comme ceux-là. Il y a des frères qui avaient vécu là puis qui étaient décédés. Bref, en tout cas, cette maison-là, elle a un très, très, très lourd historique. Et c'est là où on a vécu le phénomène paranormal le plus impressionnant de notre carrière. C'est que la maison, à un moment donné, après quelques questions à la Spirit Box, on a demandé de se manifester. Et puis, on a senti le plancher trembler d'un coin à l'autre de la maison, d'une manière directionnelle, comme s'il y avait un troupeau de taureaux qui courait sous le plancher. Et puis, on a vraiment eu tout le souffle coupé. Il y en a qui ont tellement eu peur, des enquêteurs qu'on était, qui sont sortis dehors parce qu'ils en avaient mal au cœur. Ça a été vraiment une enquête là, spectaculaire. On a une série de PVE impressionnante là, de cette soirée-là. Tout était coupé, il n'y avait rien qui avait pu bouger, il n'y avait même pas de neige qui avait tombé du toit, il n'y avait rien, c'était immaculé dehors, il n'y avait pas de traces de pas dans la neige, il n'y avait rien, on était vraiment, mais tellement tout seul, que ces événements-là, en devenant encore plus impressionnant, si on veut. T'sais, donc. Ça a été vraiment terrible comme soirée. Aussi, on a la possibilité de voir ça sur YouTube. Notre chaîne YouTube, Répestrie. Si vous allez faire un tour là, une maison qui tremble, là, vous allez voir le titre. Là. Vous allez pouvoir le vivre un petit peu avec nous autres. On a aussi une série impressionnante, comme je disais, de PVE. C'est une compilation de plusieurs enquêtes. Là. Mais il y a des dizaines de PVE que vous allez pouvoir écouter. Des PVE très forts et très audibles. Que la plupart du temps, vous n'aurez même pas besoin d'un casque d'écoute pour les discerner. Encore une fois, c'est sur YouTube. C'est une compilation de PVE que vous allez pouvoir voir. Et puis, dans les faits marquants aussi de Répestrie, je vais tout le temps garder un excellent souvenir d'une enquête qu'on a faite dans une école secondaire avec APA Paranormal, du temps où moi j'étais encore pour APA Paranormal, mais j'en profite pareil pour en glisser un mot. Là. Ça a été, je sais pas si c'était pas ma première enquête à vie ou ma deuxième, en tout cas, mais ça a été une enquête mémorable. Là. Il y avait des PVE là-dedans qu'on a pris à appel. Ça a été vraiment splendide. Là. Il y a Isa, là, la conjointe de Pat là, qui s'est mis à parler en amérindien, comme ça, sans même s'en rendre compte. Il y a eu des phénomènes qui étaient assez impressionnants là-dedans aussi. Et puis l'ambiance, c'était quelque chose. Les professeurs qui nous avaient assistés dans cette école-là nous avaient témoigné des choses intéressantes. Puis ça avait été une très, très, très belle enquête aussi. Pour conclure... Je reviens un petit peu sur Répestrie. On est une organisation de Sherbrooke dans l'Estrie. On peut se déplacer jusque dans la Beauce, jusqu'à sur la rive sud. On peut se déplacer probablement jusqu'à Québec, Trois-Rivières et ces choses-là. On est très ouvert. Donc, on évolue autant dans le privé que dans le public. Nos services, je vous le rappelle, sont gratuits. Et puis, donc, c'est toujours un plaisir d'échanger. On a une page Facebook. Répestrie paranormale. Donc, c'est un plaisir de pouvoir avoir du temps là, d'antenne sur le podcast. Et puis, en tout cas, j'apprécie vraiment le moment là, d'avoir pu partager tout ça avec vous autres. Et puis, là-dessus, ben, on se dit à la prochaine.
Les blocs hip-hop, shit! C'est complètement validé.
Rhymes qui est au bout du fil. Salut Rhymes, comment ça va?
Salut messieurs, vous me faites tout un honneur d'être artiste du mois, c'est incroyable.
Au Mont-Tremblant, t'as apporté Stat comme première partie.
Yes. Comment ça, vous savez ça, vous autres?
nous autres aussi, on a des contacts.
Ouais, c'est ça,
rap français ou rap US?
Rap français, je te dirais.
Rap français, ok. Scylla ou Oxmo Puccino?
Genre, Oxmo. Ben oui.
OK, yeah.
Ça fait du bien de... Je me permets un petit commentaire. Ça fait du bien de passer une entrevue avec des fins connaisseurs de hip-hop, même ce qui est très rare au Québec, dans les médias. Là. C'est cool.
Ben, merci, man.
Avant d'être des animateurs, on est des tripeux de ça, tu sais, je veux dire.
Ouais, ben ouais.
Ne manquez pas le bloc hip-hop tous les jeudis dès 20h.
La radio de Lévis 96.9.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion.
Bienvenue dans la zone.
De retour de la pause. Ça fait extrêmement plaisir de recevoir Steve et éventuellement, c'est sûr que on a une date d'enquête avec plusieurs enquêteurs dans le fond et ça serait la prison Winter où j'ai eu la chance d'aller à deux reprises. La fois qui arrive, c'est que j'espère que dans cette période de l'année, j'aurai le temps et c'est ça, le temps de pouvoir aller à cette enquête-là. Sinon, j'essaierai de vous aider du mieux que je peux avec les informations que j'ai pour que vous puissiez avoir une meilleure enquête, dans le fond, avec le plus d'informations. Mais je vais tout faire pour y aller, ça c'est promis. Pour ceux qui se demandent si on est encore actif, parce que j'ai beaucoup de monde qui m'écrivent en privé sur les divers réseaux sociaux. « Hey, il me semble que je vois juste des trucs sur TikTok, mais je vous vois plus sur Facebook et ni sur YouTube. » Facebook, j'ai perdu l'intérêt. Oui, c'est sûr que je continue à y aller parce que j'échange avec le monde. J'utilise cette plateforme-là pour échanger et discuter avec les autres personnes qui sont dans le domaine du paranormal et même des amis, etc. YouTube, j'ai expliqué dernièrement pourquoi que je n'utilisais plus YouTube. Et là, je lance un appel comme ça aux gens qui connaissent comment ça fonctionne YouTube avec Google AdSense. Là. Pourquoi que je ne suis presque plus sur YouTube? C'est parce que moi, je faisais affaire avec Google AdSense. Ma chaîne commençait à devenir payante parce que j'ai beaucoup de visionnements. Encore aujourd'hui, j'ai vu que j'avais plus de 80 000 minutes de visionnement dans ce mois-ci. Et c'est quasiment comme ça. J'ai même été jusqu'à 125 000 minutes il y a, je pensais l'an passé, là. Même si je ne publie presque plus depuis 2 ans. Donc, imaginez si je publiais encore. Pourquoi je publie plus? Parce que la journée où j'ai décidé de connecter, parce que j'avais été accepté, c'est tout un long processus. Il faut que tu aies un minimum d'abonnés, il faut que tu aies un minimum de personnes qui aient vu tes vidéos, etc. Et là, j'essaie de faire une histoire courte, là. Donc, du moment où j'ai connecté mon compte bancaire à Google AdSense, quelques heures après, je reçois une notification qui dit que ma chaîne ne sera pas monétisée. Et là, j'avais quand même 3 mois de côté, ce qui donnait à peu près 1 200 $. Mettons un chiffron, là, 330 $ par mois. Et presque 1 000. En tout cas, j'avais calculé, là. C'est pas grand-chose, mais c'était un début, ça commençait bien. J'aurais été content, ça aurait payé le site Internet, etc. Donc. Et là, la raison qu'il me donne, c'est parce que mon site aurait eu des clics, je me rappelle pas du nom, là. Il y aurait eu quelque chose qui se serait passé au niveau des personnes qui cliquent sur la publicité. Et ben, fini, j'ai aucune chance de récupérer ça. Donc, j'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de parler à quelqu'un, c'est toujours des robots, c'est toujours les mêmes réponses que je reçois. Donc, je lance un appel. Si jamais vous connaissez le fonctionnement et s'il y a possibilité de parler avec quelqu'un qui pourrait me donner des conseils pour récupérer, dans le fond, pour que mon YouTube redevienne payant, ben faites-le moi savoir par mon courriel appa.paranormal@gmail.com. Donc, c'est un petit appel. mais je suis quand même beaucoup sur les réseaux sociaux via TikTok. On a publié plus de 300 séquences. C'est tous des séquences où on a capté des trucs. Et les gens adorent ça. J'ai des vidéos qui ont été vues plus de 200 000 fois. Donc, je suis très content. Je m'attendais jamais à ça. Donc, merci. J'ai un collègue qui est en train de travailler sur notre nouveau site Internet. Je crois qu'il est en ligne, même s'il n'est pas terminé. Allez jeter un œil à appaparanormal.org. Non, je me trompe. appaparanormal.com, parce que j'ai réussi à le récupérer. Très content. Et là, vous allez voir que c'est une espèce de cimetière et que vous pouvez défiler dans le cimetière et aller cliquer sur certaines pierres tombales. Je trouve ça très différent. J'aime beaucoup l'idée, car les deux, trois autres sites que j'avais avant, ça se ressemblait beaucoup. Et je veux avoir juste un minimum, comme une carte d'affaires. Puis je trouve l'idée très bonne, etc. Donc, par la suite, j'ai récemment, il y a quelques jours, j'ai fait une entrevue avec un journaliste du magazine Le Summum. J'ai très hâte que ce soit mis en ligne, donc aussitôt que ça va arriver, je vais le faire savoir à tous. J'ai sur papier quelques enquêtes qui m'intéressent beaucoup. j'attends le hockey. Et encore une fois, j'espère que la saison va nous permettre de pouvoir faire 3 ou 4 enquêtes. J'aimerais vraiment beaucoup parce que ça me manque. J'ai quand même encore beaucoup d'équipements à remettre sur le plancher, si on veut. Puis j'ai quelques appareils aussi que je dois essayer. Avec JL et Dominique Desormeaux aussi, on a un test qu'on avait commencé il y a quelques années et que malheureusement, on avait eu tellement de bugs qu'on avait juste abandonné le projet pour ce moment-là, mais la chance n'est pas encore revenue. Donc, le test, je ne sais pas si vous avez été témoin de ça quand on l'a fait, c'était en direct. Donc, on avait des objets hantés, chacun de notre côté, moi et Dom, et JL posait des questions. On avait des feuilles avec des lettres ou certains mots qui étaient soit chez JL ou Dom ou même chez moi. Et on essayait, avec les entités qui pouvaient nous entourer, essayer de capter des réponses. Donc, ça allait loin parce que, tu sais, moi, j'ai déjà vu des gens qui faisaient des enquêtes à distance, essayer de parler avec des entités avec laquelle qui c'était impossible. Je vous donne un exemple. Moi, j'aimerais bien rentrer en contact avec Jim Morrison, mais je pense que si je ne vais pas sur un lieu où lui a habité ou qu'il a déjà visité ou quoi que ce soit, ben je pense pas pouvoir obtenir des réponses. Mais j'ai vu des gens qui ont été capables de le faire. Et on en a déjà parlé avec d'autres enquêteurs. Puis ben c'est le test qu'on veut réessayer. Puis je pense même que JL a dû avoir des idées pour la prochaine fois qu'on va réessayer. J'aimerais aussi remettre sur pied les tests que je faisais avec la transcommunication instrumentale. J'ai discuté avec quelqu'un de l'Europe. Lui m'a parlé d'une façon de faire. Et quand je vais réessayer, je vais vous donner ça plus en détail, là. Moi, j'avais été plusieurs heures dans mon bureau à faire ce test-là. Et qu'est-ce que je faisais? Donc, aucune lumière. C'était un cul de poule, un bol d'eau. J'avais la machine qui génère des champs électromagnétiques que j'appuyais sur le bol d'eau et ça faisait une vibration. Et on voyait juste des petites vagues. Et là, je prenais des séries de photos. J'ai dû en prendre je sais pas combien. 5000, 6000. J'avais capté toutes sortes de formes, mais sur toutes ces photos-là, il y en a une que j'ai gardée de côté et vous en souvenez sûrement, là. C'était les deux lettres calligraphiques. C'était J-R. Deux lettres qui étaient collées. Et c'était vraiment de la calligraphie, là, comment que les gens écrivaient à l'époque, là. Et ça, j'avais été très content, j'avais montré à plein de monde, puis là, ben, le monde disait, ben, t'as-tu regardé, t'as-tu vérifié, voir s'il n'y avait pas, c'est peut-être une marque qui a été tempée dans le fond, ou des lettres qui sont là, non, on a vraiment tout regardé, et il n'y avait absolument rien dans le fond du bol, et ça l'a apparu comme ça, sur une des photos que j'avais captées. C'est un test que je veux réessayer. Je veux aussi, j'ai beaucoup de projets, là, j'avais déjà tenté avec deux téléviseurs d'époque, noir et blanc, les anciens gros cubes là, qu'on tourne, la Switch, puis qu'on peut garder juste sur un poste de neige. Et j'avais essayé une fois, ben je l'ai essayé pas vrai, deux fois, une fois à la maison, ça n'avait rien donné. Et la première fois que j'avais essayé, c'était sur une enquête à Saint-Eustache. On n'avait pas capté d'image, mais on avait capté des sons qui étaient assez spéciaux. Ça ressemblait à des lamentations qui étaient lointaines et qui, dans le fond, s'approchaient comme du micro. Il n'y avait rien dans cette maison-là qui pouvait faire un effet comme ça, donc on n'a pas compris. Puis quand que j'avais enregistré ça, il y avait moi et Eric qui faisait une enquête dans la chambre. Et il y avait Jean-Guy avec, je me souviens plus, je pense c'est Mélanie, qui était dans une autre pièce. Et ça, la télé était dans la cuisine. Il y avait une caméra Night Vision qui pointait. Je vous dirais qu'il y avait à peu près 2 pieds de distance. Donc, puis le protocole, c'est que si quelqu'un fait un bruit qui pense que les autres peuvent le capter auditivement, échapper quelque chose, tousser, déplacer un objet, c'est sûr que ça va être écrit dans leur calepin. Donc moi, au moment où je vais faire l'analyse, si mettons à 11h15, il y a quelque chose qui a été capté, je vais regarder dans les calepins, voir s'il n'y a pas quelque chose qui aurait été marqué dans ce moment-là de l'enquête. Donc ça évite de prendre du faux positif pour un événement paranormal. Là. Donc j'aimerais, il y a plein de choses que j'aimerais faire, essayer d'autres trucs, puis surtout ben, des nouveaux endroits. Souvent l'affaire qui arrive, c'est que je vous donne un exemple. Le vieux Penn nous intéressait vraiment beaucoup, beaucoup. À cause de l'historique, à cause de tout ce qui a pu se passer là-dedans, l'énergie doit être incroyable. On peut enquêter, sauf que ça nous coûterait 2 500 $ pour, je pense, 4 ou 5 heures. Là. Je me rappelle pas, mais même si ce serait pour une journée complète, là, c'est ridicule. Puis la raison pour laquelle c'est cher comme ça, c'est parce que quand tu rentres avec une caméra dans un endroit comme ça, ben c'est considéré comme un tournage. Et un tournage, c'est ça que ça vaut. Donc, pour le moment, le vieux père, on met ça de côté. On a essayé aussi avec l'auberge Saint-Gabriel. C'est un endroit qui est réputé être hanté. Et ça, on en a entendu parler, ça fait déjà 15 ans de ça. Là. Et quand on a essayé de rentrer en contact, la première fois, c'était non. Et après ça, c'était OK, mais ça va vous coûter, je pense, c'était 1 500. Et c'était considéré comme un tournage. Tu rentres avec une caméra dans la place, tu fais un tournage, c'est ce que ça coûte. Et il y a d'autres endroits que, si mettons, tu vas enquêter, c'est cher, c'est minimum 1 000, mais ça te prend des assurances, parce que si tu brises quelque chose, c'est souvent des lieux historiques. Donc, je pense que c'est normal, c'est tout dépendant. C'est sûr que si tu vas enquêter dans une place, genre... l'hôtel de Québec où ce qu'il y a des sections où c'est quand même très riche, tu prises quelque chose, oui, ok, ça peut être bon les assurances, mais peu importe. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 lettres écrites. C'est des références qui ont été faites. Il y en a une des deux. Ça vient de la propriétaire de la maison Tressler. Elle avait fait une lettre vraiment clean là, qui disait qu'on était vraiment professionnel, que tout avait été. Tu sais, je vous donne un exemple. Je parle de ça parce que quand tu fais une enquête, c'est sûr que si tu vas dans un lieu historique comme la maison Tressler, tu peux pas commencer, si tu mets un système de caméra, un DVR, avec des fils, tu peux pas commencer à taper les fils sur le plancher, sur les murs, pis tout ça, parce qu'aussitôt que tu vas enlever ton tape, tu vas enlever de la peinture, puis dans le fond, tu maganes l'endroit, et c'est malheureux, mais cette histoire-là, ce que je viens de dire, c'est arrivé à plusieurs endroits. Et par la suite, il y a des gens, il y a des équipes d'enquête dont nous, on s'est fait bloquer parce que c'est déjà arrivé, ces choses-là. Donc, j'ai des lettres de référence que je vais présenter aux endroits qui vont m'intéresser beaucoup. Comme quoi, qu'on est respectueux des places, puis que c'est des gens qui travaillent de façon professionnelle. J'ai envie de vous présenter du nouveau matériel. Oui, je sais que ça fait quand même longtemps. Et dernièrement, j'ai parlé beaucoup de Saint-Cloud, mais c'est fini, on a tourné la page. J'ai montré ce qu'il y avait à montrer, j'ai parlé de ce qu'il y avait à parler aussi. Maintenant, il y a un projet de podcast qui m'intéresse aussi avec Alex. On a ça sur la table depuis 2 ans. Éventuellement, si on réussit à avoir du temps pour s'en reparler, ben j'aimerais ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous tiendrai au courant parce qu'il y a beaucoup de monde qui me pousse à faire ça, puis j'aimerais ça, je pense. Puis il y a un autre projet que j'aimerais beaucoup que ça revienne. Je sais pas si vous vous souvenez des salons entre deux mondes avec dans le fond, toute l'équipe de Pop Paranormal, elle est là avec Nancy Lefrançois. Nancy Lefrançois, c'est elle qui était la fondatrice de ces salons-là, qui était vraiment extraordinaire. Beaucoup de personnes allaient à cet endroit-là pour montrer leur œuvre, parler de leur passion, des médiums. Nous, on était l'équipe d'enquêteurs qui était avec Dominique Desormeaux en dernier aussi, qui allait là et qui présentait son travail. Puis c'est important, ce genre de salon-là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a des questionnements. Oui, c'est le fun, la radio, nous, on est là. Il y a les enquêteurs, il y a les ufologues, Il y a des médiums aussi qui parlent, mais quand tu vas sur place et que tu vois toute l'énergie qui est là avec les personnes qui ont la même passion, c'est le fun de la radio, mais dans un salon, c'est complètement différent, c'est complètement autre chose. Tu arrives dans un autre univers, là. Et ça, j'aimerais le revivre et j'aimerais le faire vivre aussi à ceux qui ont jamais eu la chance de connaître ça. Avant, il y avait des salons presque chaque année, là. Donc, je dois parler avec Nancy pour savoir si ça serait possible que ça revienne. Je vous tiendrai au courant. Je suis quand même un passionné. J'avoue que je le suis un peu moins à cause du temps qui me manque. Je me suis trouvé d'autres passions, dont me remettre en forme, parce que là, rendu à 51, ça s'en va pas sans mieux temps. Donc, comme vous avez vu, ceux qui me connaissent, j'ai perdu quand même beaucoup de poids. J'en ai repris un peu, mais là, ça commence à revenir comme c'était quand j'étais fier de mon travail, là. Donc, mais ma passion va quand même être là, mais comme je dis, j'ai moins de temps. Peut-être quand je vais être rendu à ma pension, j'ai pas trop envie de me dépêcher à être là, mais on verra. Puis tout dépendant des projets des autres aussi, parce que je me fais approcher, puis j'aime ça. Les nouvelles idées, les nouvelles équipes. J'aime les idées, j'aime la façon de faire. Si je compare à il y a 10 ans, ou même au début, là, quand j'ai commencé là, en 2006, là, ça n'a rien à voir. Là. Les équipes sont vraiment sa coche. Et je suis très souvent surpris. Donc, je suis content d'avoir été là. Que je m'excuse encore pour le micro. Là, je vais travailler là-dessus dans les prochains jours. Le prochain enregistrement va être beaucoup mieux. Je ne comprends pas ce qui... Le pire, c'est que j'ai broché mon micro, j'ai fait un test, ça fonctionnait. J'ai fait un deuxième test et ben ça marchait plus. Donc, je m'en excuse vraiment beaucoup. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Merci de partager notre passion et d'encourager les gens qui ne connaissent pas Projet Anubis. Encourager des gens à écouter ce qu'on fait aussi. Aller sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, parce que c'est là que je suis en ce moment, là. Donc, venez voir ce qu'on fait. Puis, laissez des commentaires partagés. Je vous remercie beaucoup. Puis, on se revoit très bientôt. Salut tout le monde.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.